France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Tout le monde le sait, les fées ont une baguette, mais Adélaïde Ferrière, elle en a quatre. Quatre baguettes et son marimba magique. Avec lui, la percussionniste joue Bach samedi à l'auditorium de Radio France avec orgue. Et puis aussi des transcriptions de Debussy, Albéniz, Gershwin. Mais la jeune musicienne, révélation instrumentale il y a quelques années au Victoire, aime aussi la création, adepte du répertoire contemporain. Xenakis notamment d'ailleurs, avec son trio. Ils ont pris le nom du compositeur. Bonjour Adélaïde Ferrière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On reçoit rarement ici des percussionnistes. D'ailleurs, vous êtes percussionniste ou marimbiste ?
Alors, je préfère dire percussionniste. C'est vrai que le marimba tient une place très importante parce que c'est...
Et pas exclusive.
Non, pas exclusive, exactement. C'est-à-dire que voilà, je joue de tous les instruments de percussion, sans exception. C'est juste que voilà, le marimba est le clavier un petit peu le plus important, le plus développé, et il permet vraiment d'adapter la musique classique au travers de l'arrangement et de la transcription, donc ce que je fais beaucoup, mais pas que.
Je pose une question très bête. Comment on travaille ces percussions ? Vous en avez chez vous, dans votre chambre ? Vous avez un studio ?
Alors j'en ai un petit peu, ça prend de la place évidemment, j'en ai un petit peu chez moi où je peux travailler, mais je peux pas tout travailler parce que voilà, sinon il faudrait avoir je pense 50 mètres carrés d'espace de travail, mais j'ai un lieu de répétition évidemment où il y a la plupart des instruments, et après aussi le travail de percussionniste, ça peut se faire aussi beaucoup à table, par exemple du travail de table dans le train, dans les voyages, c'est-à-dire commencer à penser à des installations par exemple, ou juste regarder la musique et commencer à travailler de cette façon-là pour gagner du temps. Parce que évidemment, on change tout le temps d'instruments et on les a pas toujours à disposition.
Et quand on regarde la partition d'un percussionniste, c'est assez étonnant, déjà visuellement, et puis en plus le travail que vous faites dessus, il y a plein de couleurs par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce travail-là ? Même un plan de travail ?
Oui, alors les couleurs, on peut en mettre, en fait, c'est parce qu'on évolue souvent dans les installations de multipercussions sur beaucoup de systèmes, donc on peut en avoir parfois jusqu'à 7 ou 8, donc ce qui est assez conséquent, et du coup pour différencier les instruments, gagner du temps dans le travail et savoir exactement ce qu'on va jouer, surtout quand une partition peut être loin, en fait on va mettre un code couleur. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être rouge pour des cymbales, bleu pour des tomes, voilà, et ça va, on va vraiment gagner du temps à écrire les changements de baguettes, commencer à penser à ces choses-là, en fait, avant d'évoluer sur l'installation de percussion.
Les baguettes et le marimba, il y a une façon particulière de tenir les baguettes, ça peut évoluer selon les pièces et selon les percussionnistes ?
Alors oui, tout à fait. Alors pour les claviers, en fait, quand on évolue à quatre baguettes, il y a trois techniques principales. Donc moi, j'utilise celle du vibraphoniste Gary Burton, qui a donné son nom à une technique de baguette qui s'appelle grip, donc la façon de les tenir. Mais voilà, il y en a plusieurs. Alors après, ça peut évoluer. Il y a des interprètes qui changent également. Et puis après, pour certaines pièces, des fois, on doit tenir trois baguettes en même temps. Donc voilà, on trouve un petit peu aussi de nouvelles façons de les tenir et d'évoluer sur les instruments.
Là, pour le début d'Asturias, d'Albéniz, vous les tenez comment, les baguettes ?
Normalement.
Thank you. début d'Asturias d'Isaac Elbenitz avec Adélaïde Ferrière, notre invitée ce matin au Marimba. C'est vous qui signez aussi cet arrangement, comme quasiment tous les arrangements que vous jouez ?
Tout à fait, la plupart.
C'est plus simple, c'est plus évident, c'est...
Oui,
il n'y a pas forcément beaucoup d'arrangements faits pour Marimba.
Alors il y en a quand même de plus en plus. On en a par exemple les suites de Bach, c'est quelque chose qui se fait depuis l'arrivée du Marimba. Mais c'est vrai que voilà, sur certaines œuvres, il n'y avait pas de version et donc c'est évidemment comme ça que j'ai commencé à arranger. Et donc c'est oui, vraiment un travail sur mesure en fait. C'est pour ça qu'on s'approprie vraiment une partition en la réécrivant pour l'instrument, pour faire sonner l'instrument. Donc c'est un travail assez, très intéressant. Et que j'adore aussi.
Quand on reçoit un pianiste, une violoniste, ou que sais-je encore, on ne demande pas de décrire son instrument, mais finalement le marimba, je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ce matin qui ne voient pas très bien, une sorte de grand xylophone.
Exactement, c'est un petit peu son grand frère, donc le même principe, hein, un clavier de lames de bois disposé comme sur un piano, c'est le même principe. Et ces lames sont mises en résonance avec donc des résonateurs qui ressemblent un petit peu à une flûte de pan géante, voilà, pour imager un petit peu l'instrument. Mais oui, c'est vraiment un grand xylophone, tout simplement.
Qui est né en Amérique du Sud, enfin on le trouve pas forcément dans les grands orchestres et dans les grandes partitions du 19e siècle, par exemple.
Dans le 19e, non, dans le 20e, ça commence à avoir des partitions, et c'est vrai que oui, il a des origines d'instruments traditionnels à travers le monde, et après il s'est modernisé petit à petit.
Quand on joue du marimba, forcément on apprend à arranger si on veut toucher au répertoire classique, précisément, puisqu'il est arrivé à la fin du 19e siècle ou au cours du 19e siècle. Pour le concert samedi à l'Auditorium de Radio France, vous allez jouer et François Espinas à l'orgue. Comment vous avez fait d'ailleurs ? Vous avez déjà joué avec un organiste ?
Non, ce sera la première fois.
Comment on sait si ça match, si ça marche ?
Oui, c'est une expérience qui est tout à fait... qui est hors du commun, en fait, de jouer avec orgue, parce que c'est un instrument qui, évidemment, est extrêmement imposant. Une sonorité aussi que l'on connaît tous, mais quand on doit jouer avec, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et donc, voilà, c'est s'inscrire dans cette masse sonore, dans ce rapport aussi spatial, puisque, évidemment, l'orgue n'est pas à la même place que moi sur scène, par exemple.
L'organiste, si, en revanche. Alors, l'organiste, si, voilà. Hein, il n'est pas...
Voilà, la console est placée sur la scène, mais du coup, il y a ce rapport entre la place de la console et aussi le lieu d'où vient le son. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier, en effet, mais vraiment très intéressant. Et l'orgue, c'est un instrument que j'adore, donc je suis très heureuse de donner ce concert.
Comment s'est faite la rencontre, d'ailleurs ?
Alors, elle s'est faite il y a très longtemps, parce que François Espinas était à l'un de mes premiers jurys de concours, je ne sais plus exactement lequel. Et voilà, et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Et puis ensuite, on avait gardé un petit peu le contact, mais sans jamais envisager un projet. Et puis celui-ci s'est fait.
Comment ne pas être écrasé par le son de l'orgue ? D'ailleurs, le marimba peut jouer très fort. Comment vous faites la dynamique à cet instrument ?
Oui, le marimba a quand même une palette de dynamique qui est assez large. Et puis bon, après, en général, la percussion, elle peut être aussi écrasante. Donc voilà. Mais non, là, c'est vrai que les deux se marient plutôt bien. Et puis après, il y a un travail de registration, évidemment, pour que les sonorités se marient et que la couleur du marimba, qui est assez chaude, assez résonante aussi, puisse fonctionner avec celle de l'orgue.
Bach au programme, mais aussi de la musique contemporaine. Il y a même une création signée Rikako Watanabe. Un programme parfait pour vous, ça vous correspond ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a de la musique contemporaine qui reste quand même le répertoire phare de l'instrument. La création, qui me tient évidemment beaucoup à cœur, puisque c'est le répertoire de demain, toutes les choses qu'il y a à développer. Et puis ce travail avec les compositeurs qui est extrêmement intéressant et enrichissant. Et puis un petit peu de transcription, quand même, pour rester un petit peu dans le classique.
Bach sans orgue, c'est toujours vous. Et c'est une pièce fort célèbre, écoutez. Thank you. thème qui revient, c'est la chaconne de Bach dans la deuxième partita, écrite à l'origine pour le violon, que vous avez arrangé, Adélaïde Ferrière, que vous jouez sur ce disque. Il y a plein d'ailleurs de singles qui sont sortis avec différents arrangements de répertoire. On peut tout jouer, on peut tout arranger, Marimba. Vous pouvez faire la Mordisole de Wagner, par exemple.
Je ne pense pas. non, on peut. Je ne pense pas qu'on peut tout jouer. Il y a des choses qui, bon, évidemment, moi, je suis très proche du répertoire pianistique pour l'arrangement, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qui sont trop spécifiques à l'instrument. Par exemple, avec les jeux de pédales qu'on n'a pas sur le marimba. Donc, je pense que c'est une question de conviction déjà l'arrangement, de savoir si ça va marcher ou pas, c'est d'avoir une petite conviction que ça va marcher au départ.
Comment ça transforme l'écoute ? Comment ça transforme Bach pour vous, par exemple ?
Pour moi, ça le transforme pas. C'est-à-dire, c'est vraiment le remettre dans le contexte comme s'il avait été écrit pour l'instrument. Donc, c'est le faire sonner de cette façon-là.
Vous parlez des pianistes, du piano, des claviers. Vous aussi, vous devez vous adapter aux instruments sur place ?
Oui, en effet, puisqu'on a rarement nos instruments personnels, parce que c'est très compliqué, c'est une logistique particulière. Donc on évolue soit sur des instruments de prêt, des instruments de location. Alors évidemment, il y a des instruments standards, donc voilà, où les écarts ne changent pas, par exemple sur le marimba. Et des fois, quand on change de marque ou de fabricant, on va avoir en fait un clavier qui devient complètement différent. Donc c'est une adaptation à chaque fois.
Dans les magasins de bricolage pour votre travail, qu'est-ce que vous y faites ?
Ça peut arriver, un petit peu de temps. Non, ça peut arriver qu'on ait, surtout dans la création contemporaine, en fait, d'évoluer sur de nouveaux instruments ou alors des objets qui deviennent des instruments. Notamment, ça peut être du carrelage qu'on va accorder quasiment. Ça peut être aussi j'ai déjà fait des choses, par exemple, avec des écrous ou des clés à molette qu'on vient tourner et qui vont faire, voilà, des choses amplifiées, créer de certaines sonorités. Donc, ça peut arriver, en effet, qu'on aille dans les magasins de bricolage et qu'on passe un petit peu pour des fous.
Vous êtes entré dans ce studio avec une mallette, avec des. Je crois qu'il y a vos baguettes à l'intérieur. C'est quoi une bonne baguette ?
C'est une très bonne question. Une bonne baguette, je pense que c'est vraiment celle avec laquelle on peut tout jouer. Parce qu'évidemment, on change souvent de baguette pour faire évoluer la sonorité, mais je pense que la baguette doit quand même être au service de l'instrumentiste. Et je préfère, voilà, faire le son de la baguette et créer une sonorité avec la même baguette plutôt que de changer pour changer cette sonorité. Donc voilà, une bonne baguette pour moi, c'est une baguette équilibrée et qui va vraiment mettre en valeur la sonorité de l'instrument.
Adélaïde Ferrière, votre métier, est-ce qu'il requiert une force physique importante ou c'est complètement cliché ?
Je pense que ça requiert une force physique, mais pas dans le sens dans lequel on l'entend, c'est-à-dire ça demande une énergie, ça demande aussi de voilà d'être en forme physique, évidemment, d'avoir une conscience du poids. Après, voilà, il n'y a pas besoin d'être bodybuilder pour jouer fort de la percussion, ça, j'en suis convaincue.
En revanche, il y a une analogie avec la danse, avec la chorégraphie.
Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est un aspect qui peut être parfois un petit peu sous-estimé, mais qui est extrêmement important. Puisque vu qu'on est sur des instruments qui sont très larges, on a des installations voilà, qui parfois font plus de 4 mètres de long, et donc on doit vraiment trouver la sonorité parfaite, faire sonner chaque instrument, qui ne réagit pas de la même façon évidemment. Et donc ce rapport au geste, il est extrêmement important.
Comment vous êtes tombé dedans ? Comment vous êtes devenu d'abord percussionniste ?
Alors c'est vrai que ça a été d'abord par le piano, donc j'ai toujours
instrument à percussion ?
On peut le dire, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cet amour pour le clavier, en tout cas, l'instrument harmonique. Et puis la percussion, ça a été vraiment une découverte de ce monde, complètement... qui est encore à construire, en fait, qu'on n'a pas fini de découvrir. C'est évoluer d'un instrument à un autre, cette découverte de la sonorité, cette exploration permanente, en fait.
Vous n'avez jamais voulu être percussionniste d'orchestre? Vous jouez avec, dans vos différents ensembles, avec des grands percussionnistes, notamment de nos orchestres ici de Radio France?
Tout à fait. Alors, c'est vrai que la carrière d'orchestre, moi, j'aimais beaucoup le métier de timbalier, par exemple, parce que c'est un petit peu le deuxième chef d'orchestre. Et après, c'est vrai que voilà, moi j'aimais bien cette liberté de soliste, d'aller et venir, de voyager, de découvrir.
En quelques années, il y a de plus en plus de solistes, Vasilena Serafimova, Aurélien Guignou. Vous ressentez un engouement récent, et notamment pour les marimbas?
Oui, tout à fait. C'est vrai que l'instrument se développe de plus en plus, et son rôle et sa place dans la musique classique tout particulièrement. C'est vrai que ça devient de plus en plus dans la norme de programmer des concerts de marimba, ce qui ne l'était pas il y a quelques années. Et après, voilà, des solistes, il y en a eu depuis un petit moment maintenant quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu Evelyne Glennie, par exemple, qui maintenant a plus de 70 ans, je pense, donc qui a été l'une des premières à donner une carrière de soliste. Mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Donc ça, c'est une chose qui est assez formidable à voir.
En 2017, vous avez remporté une victoire, vous avez été sacrée révélation instrumentale. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous?
Alors c'est vrai que ça a représenté une forme de concrétisation voilà, que cette carrière de soliste était possible. Puisque c'était un petit peu une reconnaissance de l'instrument et puis à la fois une visibilité pour le marimba aussi. Parce qu'évidemment, les victoires, c'est un événement qui est très suivi par les gens du milieu, mais aussi par le public quand même. Et donc voilà, c'est une très belle visibilité qui a ouvert des portes et qui a permis un petit peu de faire connaître l'instrument un peu plus.
Soliste et puis chambriste, il y a votre trio Xenakis. Tiens, si on l'écoutait, Yannis Xenakis, pas sa musique tout à l'heure, mais d'abord lui qui parle en 1975.
Il n'y a qu'à prendre d'abord les instruments occidentaux tels qu'ils ont abouti après des siècles, des millénaires probablement de recherche dans la délicatesse, dans la finesse, dans l'efficacité sonore, acoustique, et aussi en comparaison de voir ce qui se passe dans les hautes civilisations, cultures musicales d'Asie ou d'Afrique, où le son en soi est quelque chose qui existe, c'est pas une imagination. Lorsque le tabla joue sur sa peau, il produit des sons remarquablement beaux, tandis que ici, la percussion, les instruments de percussion, à cause de l'industrialisation, sont foutus. C'est pas la peine, c'est laid comme son. Avec les peaux en nylon, n'est-ce pas? Et puis les fûts en plastique, plus ou moins, ou n'importe quelle forme, n'importe quelle tension. C'est vraiment lamentable. Et dans les conservatoires, ici, il faut avoir du talent pour dépasser le manque de cette étude, de cette culture du son en soi.
Ouais, c'est cash en 1975, Yannis Xenakis, les choses ont changé depuis Adélaïde Ferrière. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est dit là?
Oui, je pense que c'est, il y a une grosse part de vérité dans ce qu'il dit. Mais c'est vrai que oui, les choses ont évolué parce que la conscience justement de ce son propre à la percussion est devenue de plus en plus évoluée aussi. Et donc les parcs instrumentaux se sont développés de plus en plus et il y a également un travail de recherche de la part des constructeurs pour arriver à cette recherche de la sonorité, à comment faire sonner tout simplement une peau et pas seulement mettre un tome de batterie avec une peau en nylon.
Quel rôle Xenakis a-t-il joué pour les percussions, pour vos instruments, pour votre instrument?
Un très grand rôle quand même, parce qu'il a poussé la virtuosité, d'une part, parce que ces pièces ont été quand même... Rebond, par exemple, ça a été l'une des premières pièces où Psafa soliste pour l'instrument. Et avec cette dimension d'avoir un instrumentarium absolument pas mélodique, qu'avec des peaux, ou alors avec des bois, enfin voilà, un alliage. Et puis, c'est vrai qu'il a poussé la virtuosité à un autre niveau, et puis la place de l'instrument soliste quand même.
Écoute, ici le début de Psafa, qu'est-ce qui vous séduit ici?
Dans Psafa, je pense que c'est une œuvre qui est complètement monumentale, en fait. C'est un petit peu une transcendance de la percussion, de la musique. Voilà.
C'était votre premier disque contemporain en 2020.
Tout à fait.
C'était audacieux de sortir un premier album comme ça, de musique entièrement contemporaine.
Oui, bah c'est vrai que ça me tenait à cœur de mettre vraiment en valeur le répertoire de l'instrument et pas la transcription. Et puis c'est aussi représenter un petit peu l'école française de la percussion qui est très orientée vers cette musique contemporaine également.
C'est vous qui faites tout en même temps, là?
Tout à fait.
Et c'est quelle percussion?
Alors là, il y en a énormément de différentes dans toute la pièce, mais sur ce passage-là particulièrement, on a des rototomes, en fait, qui sont comme des tomes de batterie, mais ils ont la particularité de pouvoir s'accorder un petit peu en direct, c'est-à-dire que quand on les tourne, on va pouvoir changer la hauteur de la note, donc c'est ce qui rend un petit peu de pluralité dans la sonorité, et puis il y a aussi des bongos et grosses caisses et plus gros tomes.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est Adélaïde Ferrière, notre invitée percussionniste, marimbiste, en concert samedi à la Maison de la Radio, à l'Auditorium, pour un concert en duo avec François Espinas à l'orgue. On vous retrouvera aussi à la fin du mois au Festival d'Auvers-sur-Oise, en duo avec la pianiste Fanny Azuro. Et puis, un peu plus tard, avec l'orchestre Dijon, Bourgogne, ce sera le 21 juin, orchestre avec lequel vous êtes artiste associé, un concert Gershwin, Sarrazat, n'oublions pas, Saint-Germain-en-Laye, les étoiles du classique, à la toute fin du mois, vous serez cette fois avec Pierre Vaudic. On va ouvrir votre diaporama sonore, on va écouter quelques musiques et vous allez nous dire ce qu'elles vous inspirent. C'est la première musique.
Donc le concerto en fa de Gershwin interprété par Hélène Grimaud, une pièce que j'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement festive, c'est un petit peu une ode au rythme et au jazz. Répond de Pierre Boulez, donc une œuvre vraiment très emblématique du répertoire de la percussion, puisqu'il y a trois percussionnistes solistes sur scène. Donc c'est l'une des premières œuvres concertantes de l'histoire de la musique. Et je l'aime beaucoup parce que c'est une sorte de grand chaos désorganisé.
Vous l'avez joué ?
Je ne l'ai jamais joué, mais j'aimerais beaucoup.
Allez, troisième musique, ça c'est nous qui l'avons choisi, écoutez.
C'est le trio KDM.
Chuchotement burlesque. C'est quoi ? C'est votre autre trio ?
Oui, tout à fait. Donc deux percussionnistes et un accordéoniste. Et donc là, dans une pièce d'Alireza Farang, donc qui utilise vraiment la percussion sous toutes ses formes. Donc ici, on a ce côté presque bruitiste, avec beaucoup de modes de jeu, des Super Bowls sur les timbales, des tubes wah-wah. Voilà, plein de choses diverses
et variées.
Des tubes wah-wah.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un tube accordé, en fait, avec une note et qui va venir donner
comme
ce... Exactement, comme la pédale wah-wah.
On se quitte avec ça.
Thank you. Armando Srumba du duo mythique Gary Burton et Chick Corea. Donc évidemment, voilà, Gary Burton, l'une de mes plus grandes inspirations, parce que c'est un grand monsieur du jazz. Et je pense que je ne me lasserai jamais d'écouter ce titre.
C'est lui qui vous a donné l'idée de la façon de tenir vos baguettes, ce que vous disiez tout à l'heure.
Alors, c'est lui qui a donné l'idée, je pense, des centaines de percussionnistes à travers le monde, parce que sa technique est vraiment devenue complètement installée dans la pédagogie percussive.
Vous l'avez vu sur scène ?
Oui, la grande chance de le voir. Alors, j'étais toute jeune, mais ça reste un de mes meilleurs souvenirs.
Donc avec Chick Corea et Gary Burton, rendez-vous samedi soir à l'auditorium de Radio France pour ce concert Adélaïde Ferrière avec François Espinasse à l'orgue. Et puis on vous retrouvera ces prochaines semaines à Auvers-sur-Oise, également chez notre ami Clément Rochefort dans Génération France Musique, le live le 11 mai, à Dijon le 21 juin et aux Étoiles du Classique à Saint-Germain-en-Laye les 28 et 30 juin.
À réécouter sur francemusique.fr.